Au gré des océans et des côtes, la Grande Bleue vous amène à la découverte de ceux qui vivent pour et avec la mer. Chercheurs, pêcheurs, producteurs, tous les acteurs de la filière se racontent ici. Un programme Maurice Clément Fèvre, une émission Sébastien Chauveau.
Les océans occupent la plus importante surface du globe. Ils sont présents sur un peu plus des deux tiers de la surface de la Terre. Ce sont des vrais capteurs des rayons du soleil et du vent. Malgré tout l'intérêt qu'il convient d'apporter à la production par les énergies marines, le sujet souffre d'une certaine lenteur. Il faut dire que les énergies des mers supportent de multiples contraintes, parmi lesquelles leur localisation. Ce sont de ces énergies dont nous parlons dans cet épisode de La Grande Bleue. La mer regorge de moyens de produire de l'énergie. Certains sont aboutis, d'autres moins. C'est le cas des éoliennes flottantes. C'est l'EMR, énergie marine renouvelable, la plus mature, notamment l'éolienne posée, parce que c'est la moins chère et la plus facile à développer. Contrairement à d'autres pays, en France, les énergies marines renouvelables ne sont pas entrées en production. Il y a beaucoup de projets qui sont en développement, mais il n'y en a pas qui envoient des électrons sur le réseau électrique. En clair, aucun n'alimente nos foyers en électricité, ce qui n'est pas le cas de l'énergie solaire et de l'éolien terrestre. Notre pays est alimenté en courant électrique par ses applications. Les mises en œuvre de projets d'énergie marine renouvelable sont longues. Elles peuvent prendre jusqu'à 10 ans. Ce sont aussi des projets complexes à mettre en place. Ils se développent en mer, avec les contraintes techniques que cela impose. Les premiers projets d'EMR devraient entrer en production à l'horizon 2020 en France. Nous sommes en retard par rapport à d'autres pays, comme l'Angleterre et l'Irlande notamment, qui déploient déjà différentes applications. Nous avons été ambitieux sur ces techniques il y a quelques années. Nous avons voulu attribuer beaucoup de volume, avec des projets de taille importante, assez rapidement. Or, nous n'avons pas su absorber le temps nécessaire pour installer tous ces projets. Pourtant, la filière ne connaît pas la crise. Plus de 2000 personnes travaillent sur les énergies renouvelables dans notre pays. Citons l'exemple des chantiers STX de Saint-Nazaire, qui vendent des sous-stations électriques dans le monde entier. On parle souvent de production d'électricité quand on évoque les énergies marines renouvelables. Mais il y a d'autres applications qui s'ouvrent à ces technologies. C'est le cas de la climatisation à l'eau froide. Il s'agit ici non plus de pomper de l'eau froide et de la transformer en gaz et en courant électrique, mais de la restituer par des tuyaux pour avoir de l'eau froide. On trouve ces projets à terre ou en mer, en outre-mer, mais aussi en métropole. Le casino de Biarritz, dans les Pyrénées-Atlantiques, est climatisé de cette manière. Cela fait à peu près 40 ans que l'on utilise l'énergie marémotrice de façon moderne. C'est une EMR ancienne. La première installation productive a été mise en œuvre en 1966. C'était l'usine de la Rance, dans la baie du Mont-Saint-Michel, dans la Manche. Elle a longtemps été la plus puissante du monde. Elle fonctionne encore. C'est toujours la seule du genre en France. Il y en a d'autres plus puissantes à présent, notamment au Canada, en Chine et en Russie. Avant l'usine de la Rance, il y a eu diverses tentatives, dont un projet qui devait alimenter en courant électrique un tiers de notre territoire. Tous ont échoué. L'installation bretonne a une capacité de production de 240 MWh, ce qui donne entre 500 et 600 millions de kWh par an. On trouve beaucoup d'usines marémotrices qui ont une capacité de 10 à 100 fois moins que celle du Mont-Saint-Michel. La technique date de l'Antiquité. Le principe marémoteur est basé sur l'utilisation de la force des marées, montante et descendante. On appelle cela le marnage. Ce marnage est obtenu à partir de la force de gravitation du Soleil et de la Lune. Cela entraîne un effet de turbinage, comme sur un barrage. Il y a deux manières d'utiliser l'énergie marémotrice. Potentielle, on utilise la force provoquée par l'élévation du niveau de la mer. Cinétique, on fait appel au courant des marées. Si l'on prend l'exemple de l'usine de la Rance, le marnage est de 14 mètres, mais elle ne turbine que sur 3 mètres. Cela veut dire que l'on n'utilise pas le maximum des marées pour produire du courant électrique. Il y a peu de sites de captage d'énergie marémotrice à travers le monde. C'est pourquoi on ne trouve qu'une seule application en France. Il faut des bonnes conditions hydrodynamiques pour construire une usine comme celle de la Rance. Ce n'est pas par hasard qu'elle a été installée dans la baie du Mont-Saint-Michel. Le site est connu et réputé pour ses importants mouvements de marée. Il faut aussi des aménagements conséquents pour produire de l'électricité avec de l'énergie marémoteur. Ces aménagements modifient les équilibres écologiques. Afin de développer la technologie, un nouveau concept marémoteur se développe. Il n'impose plus de fermer les estuaires comme autrefois. Il est installé dans un lagon artificiel en créant une digue semi-circulaire le long de la côte ou circulaire plus au large. On adopte ensuite le principe marémoteur habituel. Cette méthode est pour l'heure à l'état de projet dans les îles britanniques. Mais une fois aboutie, elle pourrait contribuer à l'essor de l'énergie marémotrice. L'énergie houlot motrice est une autre EMR. Elle utilise les vagues. C'est un procédé assez simple à considérer, c'est même le plus simple. Il suffit de comprendre la différence entre les vagues et la houle pour saisir le phénomène. Les vagues sont ce que l'on voit à la côte comme mouvement. Elles sont créées par le vent dans les heures qui précèdent le moment où on les perçoit. La houle est aussi générée par le vent. Mais à la différence des vagues, la houle se construit par tout ce qui est propagé par l'océan, le vent, les vagues et les courants. C'est ce qui fait que, lorsqu'elle arrive à la côte, la houle est plus puissante que les vagues. Comme l'énergie marémotrice, le procédé houle-moteur n'est pas récent. Il a d'abord été employé pour actionner des cloches sur des bouées de signalisation marine. Il a vraiment été déployé pour la première fois en 1910 pour alimenter en électricité une maison sur la commune de Royan, en Charente-Maritime. Ces utilisations se sont succédées jusqu'au choc pétrolier de 1973, ce qui a conduit à améliorer et diversifier la technologie. C'est le Portugal qui est le pays pionnier en matière d'énergie houlomotrice. Pour autant, la technologie est perfectible. Elle demeure peu rentable car chère à mettre en place. Il faut compter 300 euros la production d'un kilowattheure d'électricité avec cette énergie, contre autour de 80 euros habituellement. Le déploiement de l'houlomoteur peut être intéressant dans le cadre de l'alimentation en électricité des îles, où le coût du kilowattheure peut s'élever à 200 euros. L'hydrolien est encore une autre énergie marine renouvelable. Elle a un réel intérêt car la potentialité des courants marins est importante en France, notamment en Bretagne et en Cotentin. Notre pays est la deuxième puissance européenne dans ce domaine, derrière le Royaume-Uni. Pourtant, il n'y a pas d'installation hydrolienne chez nous, hormis des prototypes. La recherche et le développement se sont essentiellement concentrés sur l'éolien terrestre, mais il ne suffit pas. Les arguments qui sont avancés pour expliquer cet enlisement sont entre autres l'agressivité du milieu sur le matériel et la prise de conscience tardive à remplacer le pétrole. Les hydroliennes sont faites de turbines qui tournent à vitesse réduite, ce qui diminue les phénomènes d'aspiration. Il n'y a donc pas de conséquences sur la faune et la flore marine. Les hydroliennes peuvent être à flot ou immergées. Elles utilisent l'énergie cinétique des courants marins ou fluviaux pour fonctionner, de la même manière que les éoliennes se servent de celle du vent. C'est la transformation de cette énergie cinétique en énergie mécanique par les hydroliennes qui génère de l'électricité. La transformation se fait au moyen d'alternateurs. À puissance de production équivalente, les hydroliennes sont plus petites que les éoliennes. Il faut dire que la masse volumique de l'eau est 800 fois supérieure à celle de l'air. L'autre avantage de l'hydrolienne, c'est que c'est une énergie intermittente. Cela signifie qu'elle est prédictive, contrairement à d'autres énergies avec lesquelles il faut composer pour produire. Il n'y a pas non plus de modification de l'environnement pour implanter des hydroliennes. Il va sans dire que les hydroliennes ne polluent pas. Elles utilisent une énergie renouvelable. Elles ne se voient pas non plus. Tout cela n'est pas négligeable en matière de pollution visuelle et de protection de l'environnement. L'un des obstacles au déploiement des hydroliennes, c'est l'installation. Elle est complexe. Les hydroliennes imposent d'être déployées avec précision sur des créneaux courts. Le recours aux anti-fouling, pour ne pas que les algues et les organismes vivants s'agglutinent sur le matériel, pose un autre problème à l'installation des hydroliennes. Ces produits ne sont pas sans conséquence sur le milieu marin. Ils doivent en plus être appliqués régulièrement. Malgré tout, les hydroliennes s'implantent partout. On peut même les poser en rivière. La France a beaucoup de retard dans le déploiement de ses matériels. Les premières vraies exploitations d'hydroliennes sont annoncées pour 2020. L'éolien offshore est un autre concept. Il s'apparente à de l'hydrolien. À la différence de l'éolien terrestre, l'éolien offshore bénéficie de plus de puissance des vents puisqu'il est installé en pleine mer. Ce procédé produit de l'électricité à partir de turbines et de générateurs électriques. Il existe deux types d'éoliens offshore. Le fixe, on implante le matériel à moins de 50 mètres de profondeur. Le flottant, on construit les éoliennes sur terre et on les fixe dans les profondeurs à plus de 50 mètres sous le niveau de la mer. C'est exactement le même principe que les plateformes pétrolières. L'avantage de l'éolien offshore, c'est qu'il peut être installé loin des côtes. Cette technique est née dans les années 1990 au Danemark. À l'époque, c'était expérimental. L'éolien offshore tel qu'on le connaît aujourd'hui a démarré en 2010. C'est encore le Royaume-Uni qui tient le haut du pavé dans cette technologie. Les Britanniques produisent plus de 50% de l'électricité éolien offshore européen. L'un de ces parcs fait plus de 100 km². 1% de l'électricité du Royaume-Uni est ainsi produite. La tendance est aujourd'hui à installer moins de machines, mais des machines plus puissantes. On les trouve à présent en ferme de 3 à 5 MWh. Certains parcs peuvent atteindre 300 MWh. Pas en France, puisque nous n'avons aucune installation du genre. Le premier parc devrait prochainement voir le jour au large du Croisic, en Loire-Atlantique. D'ici à 2020, 6 champs de 80 machines devraient être implantés dans les mers de notre pays. Ce qui freine en partie le développement de l'éolien offshore, c'est le coût de maintenance. Il est élevé, plus que pour l'éolien terrestre. Cela se compense par la production. Elle est plus élevée avec l'éolien offshore qu'avec l'éolien terrestre. Un autre frein est le risque d'accident. Si elles sont mal signalées, les plateformes peuvent causer des incidents de navigation. Côté avantage, les plateformes éoliennes offshore favorisent la colonisation de certaines espèces. Elles créent des îlots sur lesquels se réfugient les poissons. À l'instar d'autres MR, la potentialité de nos océans fait que nous pouvons espérer une production électrique conséquente avec l'éolien offshore. Les plus optimistes prédisent 30% de production de notre électricité avec ce procédé. En 2010, nous n'avions encore aucun projet d'éolien offshore. Chacune de nos façades maritimes dispose à présent de ses zones d'implantation, ce qui veut dire que nous pourrions avoir plus de 1000 installations d'éoliennes offshore à l'horizon 2020. Au rang des EMR, on trouve aussi la chaleur. L'énergie thermique des mers, ou thermique marine, utilise la différence de température entre le fond et la surface des océans pour produire de l'électricité. Plus la différence est élevée, plus la production est importante. Cette méthode ne date pas d'hier. Jules Verne en parlait déjà dans son livre « 20 000 lieues sous les mers ». C'est le physicien Arsène d'Arsonval qui a conceptualisé le principe de l'énergie thermique marine. La première application a vu le jour en 1910. L'ETM est surtout sorti de l'ombre après le choc pétrolier de 1973. La France a fait appel à cette technologie dans les années 1980, mais l'a abandonnée un peu plus tard. Ce sont surtout les États-Unis et le Japon qui s'y intéressent. Ce sont ces deux pays qui y consacrent le plus de recherches. L'énergie thermique marine n'est exploitable que dans les zones intertropicales. C'est la raison pour laquelle il n'y a qu'un projet de prévu en France. Il s'agit d'une centrale flottante au large de la Martinique. Elle devrait produire 14 MWh. Pour installer une application ETM, il faut que l'eau de surface soit constamment autour de 25 degrés et que celle du fond avoisine les 5 degrés. Ce genre d'installation nécessite qu'il y ait suffisamment de profondeur. Il faut que les canalisations puissent remonter l'eau de mer de près de 1000 mètres. La technique d'énergie thermique marine est encore onéreuse. Elle est en plus pas rentable. C'est pour cela qu'elle doit être installée au plus près des côtes pour limiter les coûts d'exploitation et d'installation. L'énergie thermique marine a aussi un impact sur l'environnement. Elle peut tuer les poissons. Mais surtout, ces installations doivent être nettoyées au chlore, ce qui provoque des dérèglements de l'écosystème. L'intérêt de l'ETM est qu'elle est multiproduction. Elle peut générer de l'électricité, mais également de l'eau douce, faire de la réfrigération de bâtiments ou encore de l'aquaculture. Produire de l'électricité avec ce genre d'application revient à plusieurs centaines d'euros le mégawattheure. L'énergie osmotique est une EMR un peu moins connue. Elle est surtout déployée en Suisse et aux Pays-Bas. C'est un procédé qui exploite la salinité de l'eau. On l'installe dans les estuaires parce que l'eau douce fluviale se mélange à l'eau salée de la mer. Dans le cas de l'énergie osmotique, on exploite le phénomène de l'osmose. Cela s'appuie sur deux technologies, l'électrodialyse inverse et l'osmose à pression retardée. Quelques études mettent en avant la potentialité de la production électrique par cette énergie, car elle peut être fabriquée en continu. Ce qui n'est pas le cas de l'hydrolien et de l'éolien offshore. Tout aussi peu mise en œuvre que l'énergie osmotique, la biomasse marine comme énergie renouvelable n'a pas fait son chemin. Elle ne produit pas d'électricité à grande échelle, mais essentiellement des biocarburants. Elle devrait concerner dans les années à venir les domaines de l'alimentation, la santé et la chimie verte. Elle relève pour l'instant plus de la prospective que de la production. La biomasse marine génère de l'énergie par le brûlage des algues et des planctons. Cette particularité lui vaut de ne pas toujours être considérée comme une EMR. Il y a plusieurs types de biomasse marine. La plus employée est l'algue. On parle ici de biomasse algale. Les spécialistes voient un bel avenir aux énergies marines renouvelables. Ils sont convaincus qu'elles devraient faire partie des filières qui devraient changer notre mix énergétique. Elles sont en devenir. La France a une place importante à prendre dans leur déploiement. Notre pays est présent sur tous les océans du monde. Nous avons une importante façade maritime. Cela veut dire que la France a un impressionnant gisement énergétique maritime. Les énergies marines renouvelables font partie des enjeux européens. Des perspectives tablent sur une production de 23% d'électricité par les énergies propres sur le vieux continent pour 2020. Cela passera inévitablement par le recours aux énergies marines. Il faudra avant contourner les aléas techniques, se donner le temps de toutes les essayer, réaliser des investissements souvent importants. Autant de contraintes qui bloquent régulièrement le déploiement des EMR aujourd'hui. Il faut se rappeler que l'éolien a mis du temps pour se développer. C'est pareil pour le solaire, les centrales sont encore extrêmement rares, sauf dans les pays dans lesquels le taux d'ensoleillement est important. Il faudra être patient pour que notre électricité, mais aussi nos aliments, nos médicaments, notre air conditionné, proviennent en majorité d'énergie propre, principalement marine. C'est la fin de cet épisode. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro de La Grande Bleue.
Au gré des océans et des côtes, La Grande Bleue vous amène à la découverte de ceux qui vivent pour et avec la mer. Chercheurs, pêcheurs, producteurs, tous les acteurs de la filière se racontent ici. Un programme Maurice Clément Fèvre, une émission Sébastien Chevaux.